Olivier Costa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, spécialiste des institutions et politiques de l'Union européenne et de la représentation parlementaire. Un Conseil européen crucial nous attend. C'est ce qu'a déclaré Charles Michel. Il l'a déclaré mercredi avant le traditionnel sommet d'hiver des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne qui s'est ouvert ce jeudi. Il pourrait jouer les prolongations ce week-end au vu des menaces du Premier ministre hongrois Viktor Orban de le faire capoter. Pour commencer, Olivier Costa, quels vont être les sujets principaux qui vont être abordés lors de ce sommet?
Alors, l'agenda de ce sommet est vraiment très riche. Il y a la question de l'élargissement de l'Union européenne à différents pays, dont l'Ukraine. Il y a la question du soutien financier à l'Ukraine pour la poursuite de la guerre contre la Russie ou de la protection de l'Ukraine contre la Russie. Il y a aussi la question, évidemment, de la situation en Israël. Donc, un sommet vraiment très, très chargé.
Justement, au vu des sujets abordés, c'est un sommet chargé, mais c'est un sommet relativement sensible, comme il y en a rarement, non?
Oui, parce qu'il arrive qu'il y ait des blocages lors des sommets, mais c'est quand même assez rare qu'un représentant d'un État membre, en l'occurrence Viktor Orban, menace publiquement et de manière répétée ses partenaires de mettre un veto à toutes les décisions pendant le sommet. Il l'a fait maintenant depuis plusieurs semaines et la première chose qu'il a fait en arrivant à Bruxelles était de faire une déclaration à la presse sur la question de l'élargissement potentiel de l'Union européenne à l'Ukraine, ou du moins de l'ouverture des négociations formelles d'élargissement à l'Ukraine, en faisant une déclaration très virulente disant qu'il n'en était pas question, déclaration qui a été très largement partagée sur les réseaux sociaux, avec une musique dramatique et une mise en scène assez hollywoodienne. Donc de ce point de vue-là, je trouve que M. Orban met vraiment la barre très haut. Généralement, quand il y a des désaccords, ce sont des désaccords derrière des portes closes, les représentants des 27 qui essayent de trouver un accord entre eux, et tout ça n'est pas porté sur la place publique.
Alors, je le disais, Viktor Orban menace de faire capoter ce sommet. Ce coup de pression, il peut fonctionner?
Oui, on sait très bien ce que... Il y a deux dimensions dans l'attitude de Viktor Orban. D'abord, on sait que parmi les 27, c'est celui qui est le plus proche du Kremlin. Orban a des bonnes relations avec Poutine dont il ne se cache pas. À plusieurs occasions, il a été le saluer depuis le début de la guerre. Donc, il a une position qui est ici assez marginale. On va dire que Orban, c'est l'homme de Poutine au Conseil européen. Orban a un autre problème, c'est qu'il essaye de faire pression sur les 26 et sur la Commission pour débloquer les fonds européens qui ont été gelés depuis un an en raison des dérives qu'on connaît en Hongrie sur la question de l'état de droit. Et donc là, on est dans une négociation très difficile, puisqu'il y a 30 milliards d'euros auxquels Orban pourrait prétendre. La Commission européenne a proposé d'en débloquer 10, lui voudrait davantage. Donc là, il y a un vrai bras de fer, et Orban essaye de jouer de son veto pour obtenir satisfaction sur ces questions financières.
Autre sujet qui nous intéresse fortement sur Radio Judaïka, c'est la guerre en Israël. Elle continue de se traduire par des divergences entre les 27, encore constatées lors d'un vote à l'ONU mardi. On peut espérer que les pays européens parviennent à un consensus?
Ça sera un consensus forcément assez minimal. La grande difficulté de l'Union européenne sur les questions internationales, c'est que d'une certaine manière, l'Union européenne n'a qu'un rôle subsidiaire sur ces questions de diplomatie, de sécurité. Et les États membres, c'est 27 États souverains qui ont leur propre politique, leur propre diplomatie. Et on sait bien que, notamment sur la question du Moyen-Orient, les positions sont extrêmement polarisées. Ça tient à l'histoire de chaque pays. Ça tient aussi aux responsables politiques qui sont en place, car on sait bien que les différents partis n'ont pas la même appréciation des choses. Et partant de là, il est très difficile pour les 27 d'accorder leur violon et d'avoir une position claire sur cette question.
Quatre premiers ministres, dont le premier ministre belge Alexander De Croo, ont poussé ce week-end pour que le Conseil appelle à un cessez-le-feu humanitaire durable pouvant conduire à la fin des hostilités. Ils peuvent être suivis?
Alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire que par définition, on a 27 représentants qui ont des positions différentes et on arrive à surmonter ces divisions et à trouver un consensus, car il faut peut-être pas l'unanimité, mais il faut au moins que personne ne soit hostile. On y arrive quand quelqu'un prend l'initiative. Et donc, c'est toujours la même histoire. Il faut qu'un qu'un groupe de responsables politiques s'entendent avant le sommet pour venir avec une proposition et arrivent à convaincre leur partenaire. Là, ça me semble quand même un peu ambitieux comme objectif. Ça serait vraiment une surprise majeure qu'ils y parviennent.
Alors, enfin, quand ce sommet sera terminé, donc normalement ce vendredi, on doit s'attendre à ce qu'il y ait des décisions ou bien ce sera un sommet de discussion principalement?
Non, le Conseil européen a une double fonction. Il a une fonction de forum où les chefs d'État et de gouvernement viennent échanger sur différents sujets, mais le Conseil européen est aussi, depuis presque 15 ans maintenant, une institution officielle de l'Union européenne qui est qualifiée pour prendre des décisions. Donc, par exemple, la décision d'ouvrir les négociations d'élargissement avec l'Ukraine ou la Moldavie, c'est vraiment du ressort du Conseil européen. De la même manière, en matière de politique étrangère, les grandes orientations que prend l'Union européenne sur ces questions, comme les sanctions vis-à-vis de la Russie, ou par exemple un appel officiel de l'Union européenne à un cessez-le-feu s'il y en a un, c'est vraiment une compétence aujourd'hui du Conseil européen qui n'est pas simplement donc un lieu de palabre.
Pour revenir à la guerre en Ukraine et pour terminer, donc on le disait, Viktor Orban est le plus proche allié du Kremlin. Hormis Viktor Orban, les 27 sont là pour réaffirmer leur soutien inconditionnel à l'Ukraine.
Les positions sont assez contrastées. Sur le principe, tout le monde soutient l'idée que l'Ukraine a vocation à entrer un jour ou l'autre dans l'Union européenne, mais ensuite, dans l'appréciation plus détaillée des choses, on voit qu'on a des positions qui sont assez polarisées. Par exemple, les pays qu'on appelle les pays frugaux, c'est-à-dire les pays du Nord, qui se soucient beaucoup de leur contribution au budget, sont plus réservés sur la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, car ils pensent surtout en termes de coûts. Et d'une manière générale, on pourrait dire aussi que plus les leaders sont pro-européens, plus ils tendent à soutenir l'élargissement à l'Ukraine, moins ils le sont, plus ils sont réticents. Et il y a aussi un facteur géographique, à savoir que plus les pays sont géographiquement proches de l'Ukraine, à l'exception de la Hongrie, et plus ils ont tendance à soutenir, par solidarité, on pourrait dire, l'idée d'une adhésion à l'Ukraine. Donc on a toute une palette de positions au sein du Conseil européen, au-delà de cette vision un peu caricaturale d'un Orban qui dit clairement qu'il ne veut pas d'élargissement et des 26 autres qui sont a priori favorables.
Olivier Costa, je rappelle que vous êtes politologue, spécialiste des institutions et politiques de l'Union européenne et de la représentation parlementaire. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci.